Peut-être démarrer parce que sinon on va enchaîner les retards. Bon, on va se présenter comme ça fera venir les derniers spectateurs. Donc nous sommes de BPI France. Bon, je vais me présenter. Donc je suis Eric Bema. Donc je travaille à la direction de l'accompagnement de BPI France, qui est un métier un peu à part des métiers principaux d'investissement et de financement et d'assurance export. Donc, on accompagne des dirigeants d'entreprises, PME, ETI, dans plein de domaines, principalement dans des accélérateurs. Donc, ils rentrent dans des promos de 20 à 30 dirigeants pour 18-24 mois sur des sujets divers et variés. Voilà, et on leur propose des missions de conseil, de séminaires de grandes écoles et de la mise en réseau. Voilà. Et donc, et avec moi, Christophe.
Bonjour, Christophe Ménigaud. Alors, je travaille dans l'équipe développement durable sur tous les sujets ESG, et reporting extra-financier, veille réglementaire, etc. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît BPI France, en fait? Est-ce qu'il y a des mains qui ne connaissent pas BPI France? Moi, je ne connais pas tout. Alors, je lève la main sans honte. D'accord. Alors, BPI France en deux mots, ou
Non,
tu...
vas-y, vas-y.
BPI France en deux mots, c'est une banque. Public d'investissement, BPI France. Et donc, on intervient en financement, en garantie, en prêt, en investissement. Donc, on investit dans les entreprises et en accompagnement, donc, qui est une part assez importante aussi de notre sujet. Alors, on a un stand, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. On est jaune flash, c'est dur à rater. Voilà.
Bien, bon, on va pouvoir attaquer. Donc, on se posait la question, hein, la taxonomie, réglementation de trop, ou outils de transition. Bon, on va rompre le suspense tout de suite. Donc, pour nous, on va essayer de vous expliquer pourquoi nous, on pense que c'est un bon outil pour mettre en transition les entreprises et même les PME ETI. Alors, tout d'abord, pourquoi on fait cet atelier? Donc, nous, notre raison d'être, c'est vraiment de mettre en mouvement principalement des PME ETI. En général, les dirigeants, ce sont des gens très pragmatiques. Donc, on voulait sortir aussi du syndrome, le syndrome un peu pro durable, des convaincus par la déconvaincue. En fait, comment on peut parler à un dirigeant pragmatique de durabilité, lui dire, mais en fait, tu as intérêt pour ton business à être durable et on peut essayer de le démontrer. Alors, je vous dis tout de suite, ça va être un peu rapide. Donc, on n'est pas là pour aller dans tous les détails de la taxonomie. On n'est pas non plus des très grands spécialistes. Mais on est plus pragmatique, en fait, pour s'emparer de l'outil et en faire un outil de mise en mouvement et de transition. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va quand même. Alors, juste, on espère que tout le monde sait à peu près ce que c'est que la taxonomie, mais on va quand même redire les grandes lignes. Donc pour nous déjà, les convictions, enfin ce qu'on a vraiment partagé, c'est trois constats très importants qui paraissent évidents peut-être à beaucoup de gens ici, mais d'abord c'est que être vert maintenant c'est une notion systémique. Hein, donc on sort du climat, du tout climat, etc. On a un problème plus vaste, hein, même 6 fois plus vaste selon la taxonomie, parce qu'il y a 6 axes, enfin dont 2 sont le changement climatique, mais 6 axes, 6 objectifs en fait de durabilité environnementale. Donc c'est très très important, hein. C'est quand même un grand changement mental pour tous. Alors deuxièmement, le deuxième point qui est presque encore plus important, c'est que, et c'est plus actionnable, du coup, c'est qu'être vert maintenant ou en transition, ça devient une notion objective. Et donc ça c'est majeur et c'est hyper intéressant, puisqu'on sort des débats qui ne mènent jamais à rien, de alors j'ai mis une ruche sur mon toit, est-ce que c'est bien, pas bien, j'ai mis des panneaux solaires, c'est bien. Est-ce que je suis en transition et je travaille dans un domaine lié à l'énergie, mais j'améliore l'efficacité d'une centrale thermique? Alors, est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que je réduis les émissions? Ben, est-ce que c'est bien ou pas? Ben, en fait, bon, jusqu'à présent, ce genre de débat, on y arrivait toujours assez vite avec un dirigeant et on ne savait jamais vraiment dire oui ou non, est-ce que c'est bien, est-ce que tu es en transition ou pas? Alors maintenant, la taxonomie, ben, justement, elle va le dire, ça. Donc ça, c'est vraiment formidable, c'est un soulagement intellectuel, j'allais dire, et puis c'est du coup pour des missions de conseil, ça devient vraiment actionnable, quoi. Et le troisième point, et là c'est Christophe qui nous en parlera un petit peu plus, c'est que toujours pour un dirigeant très pragmatique qui a priori n'est pas particulièrement intéressé par l'environnement, il va nous dire OK, être durable c'est bien, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Bon, et ben là on pourra lui expliquer effectivement que à la clé il va y avoir vraiment des choses intéressantes pour lui. Et puis, et en miroir, des sanctions s'il ne le fait pas. côté financier, parce que la vraie pression, elle est plus du côté des banques et des investisseurs, finalement, que presque des entreprises. Mais c'est ce qu'on va voir. Alors, c'est parti. Donc là, on va jouer au jeu, un petit jeu qu'on espère interactif. On va voir si ça marche. Donc, sur la taxonomie. Donc, d'abord, le petit rappel quand même de la règle générale. Donc, il y a 6 objectifs environnementaux. Donc, je pense que vous devez les connaître. Hein. Donc, il y a l'atténuation, l'adaptation au changement climatique. Bon, là, si je les dis, je vais en oublier un. Donc, je ne vais pas tous les dire. Donc, la règle du jeu, c'est qu'il faut être bon, disons, contribuer significativement à un de ces objectifs. Donc, pouvoir le démontrer selon des critères techniques qui sont décrits par les textes. Hein. Et puis, éviter les effets négatifs sur les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le DNSH en anglais. Donc, c'est juste ne pas nuire sur aucune autre dimension des 6 dimensions qu'on voit là. Voilà. Donc, c'est une règle du jeu assez simple, mais on va détailler le cas après, vous allez voir. Bon, là, c'est assez pour info. Donc, la taxonomie ne couvre pas tous les secteurs de l'économie. Mais selon certains, donc la liste s'allonge graduellement. Donc là, actuellement, il y en a 9. Donc ça, c'est en fait, ce sont des activités qui auraient le potentiel de devenir durables, d'être durables, à condition de remplir les bons critères techniques de la taxonomie. Donc certaines autres activités n'ont même pas ce potentiel. C'est-à-dire qu'on va dire, non, elles en sont en dehors. Bon, on va voir ça après, mais on les appelle non éligibles. Alors justement, on démarre le jeu, alors j'espère que l'animation va marcher. Donc il va falloir deviner, voilà, on va aller vite, hein, mais donc le nucléaire, l'activité nucléaire au gaz, est-ce que c'est éligible ou non éligible à la taxonomie, à votre avis? Oh, ils sont bons. Alors ouais, ça marche. Bravo. Hôtellerie et camping. Oui. Ah, il faut que j'appuie 2 fois, d'accord. Industrie pétrolière. Ah, j'ai entendu un oui. Non. Non, alors voilà, donc l'industrie pétrolière n'a pas le potentiel, a priori, de devenir durable, quoi qu'elle fasse, on va dire, on peut le dire comme ça. Production de batteries. Oui. BPI France accompagnement, bon. Pourquoi vous rigolez? Non, c'est... On a le potentiel de devenir éligible, parce qu'on fait des actions, comme ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, des actions de formation et de sensibilisation, donc on pourrait être éligible, éventuellement. Et construction de nouveaux... Ah bah là, j'ai pas posé la question. Mais bon, bref, construction de nouveaux logements éligibles. Bon, voilà. Bon, vous avez tout bon. Alors maintenant, donc ça, c'était facile. Alors maintenant, il y a 3 façons d'être verte pour une activité, au sens de la taxonomie. Donc soit on est durable en soi, c'est-à-dire qu'on démontre que notre activité est durable. Soit on est habilitant, c'est-à-dire qu'on permet à d'autres activités d'être durables. Et on n'est pas forcément du coup durable soi-même. Enfin, là, c'est là où on rentre dans des subtilités qu'on ne va pas aborder là. Et soit on est transitoire, c'est-à-dire que les législateurs là, ont considéré que certaines activités, bien que n'ayant pas le potentiel de devenir durable, sont nécessaires dans un premier temps pour accompagner d'autres activités. Alors on continue le jeu, enfin on recommence le jeu. Avec, alors nucléaire et gaz, hein, ça va où? Transitoire, bon, ça, on en a beaucoup parlé, effectivement, bon, on va pas rentrer dans le débat, mais ok, c'est considéré comme transitoire. Hôtellerie et camping. Durable, ouais. BPI France accompagnement. Voilà. Construction de nouveaux logements. Voilà.
Il y a du niveau, hein.
Oui, c'est... Production de batterie.
Habilitant.
Alors, ah bah oui, ça devient intéressant. C'est durable ou habilitant? Ou les deux? Bah c'est plutôt habilitant. Alors justement, mais à condition d'avoir certains critères techniques qui font que... alors justement, voir les critères techniques, là on va pas aller dedans, hein, mais tout ça se fait, donc ça reste du potentiel. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, une activité de construction de nouveaux logements a le potentiel d'être durable à condition qu'elle remplisse certains critères. On ne peut pas faire n'importe quoi et décréter que c'est durable. Alors justement, on va rentrer... Il faut surveiller l'heure aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors le cas d'école, justement, c'est une activité de construction de nouveaux logements. Donc nous, je me mets dans la peau d'un consultant, en fait, hein, qui arrive dans l'entreprise, qui dit, bon, alors écoutez, on va faire le bilan sur les 6 objectifs, où vous en êtes. Et puis, en fait, de manière très pragmatique, on va choisir une stratégie, la stratégie du moindre effort pour être durable au sens de la taxonomie. Voilà. Sachant que, justement, on va voir qu'il y a plusieurs chemins possibles donc, qui auront potentiellement un coût différent pour l'entreprise. Mais si le dirigeant, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son tampon vert, on va dire OK, tout est OK, quoi. Feuille de route, bon, bah, après, on arrivera à une feuille de route, justement, avec un plan d'investissement. Et puis, à la fin, ça donnera même un business plan vert, ce qui est quand même très, très intéressant, en interne et en externe, pour communiquer, pour aller voir son banquier, etc. Alors, c'est parti. Donc, on a cette, bah, voilà, cette entreprise qui construit des logements. Donc là, on vous a pas mis tous les critères techniques où elle en est actuellement, mais sachez que le résultat, là, pour le moment, c'est que elle est orange dans toutes les dimensions, ça veut dire qu'elle fait ni bien ni mal, elle est OK, plus ou moins. Et elle a un carton rouge, par contre, sur une des dimensions qui est l'usage de l'eau. Voilà. Parce qu'elle utilise des robinets qui ont un débit trop important, les chaises de WC aussi, etc. Bon. Donc là, on fait le bilan, on va dire, bon, alors comment, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette situation de départ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une activité de construction de nouveaux logements, le fameux carton vert qu'elle peut obtenir, c'est que sur 3 des 6 dimensions. Donc, c'est sur adaptation, atténuation et économie circulaire. Donc, ça, déjà, ça fait partie de la règle du jeu pour ce type d'activité. Donc, du coup, on va avoir à peu près 3 choix possibles d'intervention pour elle. Hein, c'est de dire, alors, il y a un non-choix, c'est qu'il faut enlever ce carton rouge. Donc, il va falloir travailler sur la dimension eau. Mais ensuite, donc, on a ce choix stratégique de dire, bah, est-ce qu'on veut être vert en adaptation? Enfin, je ne vois pas très bien, mais ça doit être adaptation, là. Est-ce qu'on est vert, on décide d'aller vers donc être contributeur si substantiel à la dimension adaptation, ou bien atténuation, ou bien économie circulaire? Et c'est là que la discussion devient à la fois intéressante, pragmatique et réelle. Hein, c'est de dire, donc, concrètement, quand on examine les critères techniques, qu'est-ce qu'on a à faire? Quel genre d'investissement on a à faire pour l'un ou l'autre de ces chemins? Au final, là on accélère, hein, parce qu'en vrai, on peut très... Donc là, alors d'ailleurs, avec Dimitri, qui est dans le fond de la salle, donc Dimitri Droit, qui a en grande, très grande partie mis au point cet atelier, donc il y a un atelier hein, qu'on peut jouer pour faire cette démonstration-là. Donc là, je vous la fais donc relativement courte. Donc là, on travaille sur la dimension eau. Donc il y a des investissements à faire qui sont bien répertoriés par la taxonomie. Donc là, ça représente un certain montant d'OPEX. Et puis sur la stratégie d'améliorer la dimension circularité, il y a également une liste d'actions qui elle-même était plus ou moins donnée par les textes, hein, de dire qu'il faut aller dans davantage de matières recyclées. Donc l'entreprise avait un point de départ où elle en utilisait déjà pas mal, mais là, il faut encore en faire un petit peu plus. Faire une ACV sur une construction et acheter un logiciel BIM, puisque il y a une des obligations, c'est de modéliser à l'avance en fait les émissions, l'impact environnemental d'un bâtiment quand on le construit. Donc voilà, on a une liste d'OPEX, de CAPEX. Et bien ça ressemble assez fort à un business plan, c'est-à-dire que l'entreprise, maintenant de manière objective, peut annoncer à son banquier, à BPI France, mettons. Ben voilà, moi j'ai envie de devenir vert, donc j'ai mon plan d'investissement, de dépenses, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Alors, toutes ces années-là, je suis en train d'investir, j'ai pas encore forcément de chiffre d'affaires vert. C'est là aussi c'est très intéressant, puisque j'ai pas du chiffre d'affaires, donc je suis pas encore dans la part verte vue par mon investisseur. En revanche, je sais démontrer que j'ai des OPEX et des CAPEX verts. Et là, le reporting de la taxonomie impose de faire du reporting sur les OPEX et les CAPEX. Donc en fait, de manière objective, on peut dire « Ah, mais cette entreprise, elle est en transition. Elle sait me le démontrer, là. Moi, ça me convainc. » Quand je vois ça, je dis « Ah oui, ils savent où ils vont. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a un plan d'action, il y a des investissements qui sont fléchés. Tout analyste va dire « Ok, moi, j'achète ça. Ça me plaît. » Et donc, on sort des débats maintenant, il n'y a plus de discussion, est-ce que c'était bien de mettre un panneau solaire, etc. Non, en fait, tout ça, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire, j'ai trouvé un moyen pour aller vers l'activité durable. Et donc, même pour un dirigeant très pragmatique, lui, il va faire son ratio coût-bénéfice, hein, il sait combien ça lui coûte, il ne sait pas encore combien ça lui rapporte. Donc ça, c'est vrai qu'à part être durable, qui en soit une idée plaisante, c'est vrai, s'il est vraiment très 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 pragmatique, il va quand même vouloir un peu savoir qu'est-ce qu'il y a à la clé, comment ça va se passer pour lui. Et c'est l'objet de la troisième partie, et Christophe va tenter de répondre à cette question.
Exactement. Alors, Là, on voulait prendre aussi une vision qu'on voit pas forcément souvent dans les conférences sur la taxonomie, puisqu'on insiste beaucoup sur ces critères techniques, puis à raison. Mais la question principale, c'est finalement, c'est à quoi ça sert. Alors, on l'a déjà vu un petit peu, mais concrètement, en termes de sous, à quoi va servir cette taxonomie verte ? Bah, déjà, information, la taxonomie verte n'est qu'une des briques d'un écosystème de réglementation et d'éléments qui existent tant au niveau européen qu'au niveau français. Donc au niveau européen, on a le Green Deal, là, avec une poche, je crois, de 100 milliards d'euros, dont les critères de destination dépendent de la taxonomie verte. Ensuite, il y en a d'autres. On peut parler d'autres financements verts, type les obligations vertes. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces produits financiers, qui sont en fait des obligations, donc des produits financiers que peuvent acheter des gros fonds de pension et autres, et qui garantissent que le produit de ces financements se destinent à des produits verts. Alors là, on comprend tout de suite que la taxonomie verte vient justement aider à bien canaliser ça. Puis il y en a d'autres, les investissements, donc des investisseurs, des gens qui veulent prendre des parts dans une entreprise et qui veulent que l'entreprise dans laquelle ils investissent soit verte. Puis comme l'a dit Eric, avec la taxonomie, en fait, on objective le vert, un objectif, la transition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus oui, mais en fait, j'ai posé des panneaux solaires, ben d'accord, mais vous faites du pétrole, je ne vois pas tellement le rapport. Donc, la mesure est beaucoup plus objectif. Ça, c'est ce qui rentre. Ce qui sort, c'est la taxonomie verte, sert entre autres, alors, d'un point de vue purement réglementaire, à faire des jolis rapports dans lesquels on nous demande justement quels sont nos pourcentages d'alignement, d'éligibilité à la taxonomie. Il y en a d'autres aussi. La taxonomie verte sert, là encore on l'a dit, à de la communication responsable. À partir du moment où vous êtes capable de démontrer que vous êtes aligné avec la taxonomie verte, vous coupez court à toute critique sur votre manière de communiquer sur ces sujets-là. Je rappelle que le greenwashing, maintenant la communication d'éco-blanchiment est punie par la loi. Donc vous êtes à risque si vous en dites un petit peu trop, si vous peinturez un petit peu trop en vert. Ça fait partie des choses qui sont maintenant punies par la loi. Et puis, il y a aussi, alors ça nous sert à nous, institutions financières, c'est-à-dire que toutes vos banques, toutes vos institutions financières, gestionnaires d'actifs, etc., doivent publier dans leur rapport ce qu'on appelle un green asset ratio, un ratio d'actifs verts. Et ça, c'est important parce que même si ce n'est pas contraignant, enfin, je suis obligé, moi, en tant que banquier, de le produire, on ne me dit pas tu dois être à 30% de GAR, c'est-à-dire d'alignement, de destination de tes financements ou tes investissements vers du vert. N'empêche que quand je suis le seul à 2% et que tous mes compétiteurs sont à 10%, je vais avoir un petit peu de mal à dire que je suis la banque de la transition ou je suis pour un monde plus vert, etc. Donc il va y avoir ça aussi qui est une pression certes douce, mais qui est une pression quand même d'un point de vue réputationnel. Voilà, donc voilà déjà. Là, je vous mets, alors il n'y a pas besoin de tout lire en détail, ce n'est qu'une petite portion des pressions réglementaires extra-financières que BPI France a. Une petite, puisqu'il n'y a pas tout ce qui est français, par exemple. Il n'y a pas tout ce qui est volontaire, puisqu'il y en a aussi. Mais en gros, en bas, vous avez un petit peu tout ce qui est cadre européen de la finance durable. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, on aime bien ça. Donc beaucoup de choses qui nous demandent justement de faire des reporting en matière d'extra-financier. On a aussi, je ne sais pas si j'ai un petit laser. Yes, super. Mes superviseurs aussi. Les superviseurs, la Banque Centrale Européenne, l'ESMA, etc., me demandent aussi de publier des choses en matière d'extra-financiers. J'ai aussi les agences de notation extra-financière. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est celle qui note les entreprises. On est souvent là en fin d'année, là, oh, la France est passée de triple A plus à triple A moins ou tout ça, donc ça fait les unes des journaux, mais on est aussi noté sur l'extra-financier. Hein, donc alors là, il y a plein d'agences de notation, mais elles regardent aussi. Donc le GARE, l'alignement taxonomique, etc., va de plus en plus faire partie de l'évaluation de ces entreprises. Et puis, j'en parlais un petit peu juste avant, là, dans ma diapo sur les financements qui existent. En fait, il y en a de plus en plus qui, non seulement n'aimeraient pas juste que ce soit vert, mais exigent qu'il y ait ce qu'on appelle des proofings, donc des critères DNSH, alors qui ne sont pas toujours alignés avec la taxonomie, mais en gros, si vous faites la taxonomie, vous êtes mieux 10 ans sur tout. Donc, qui peut le plus, peut le moins, on va dire. Voilà. Donc là, il y en a quelques-uns. Hein, FRR, FEDER, ça ne va pas vous parler, InvestEU, etc. Mais les fonds nationaux. Mais tous ceux-là disent, moi, je veux bien te prêter 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Par contre, je veux que tu me prouves que toi, banquier, quand tu prêtes, quand tu investis, le récipiendaire, le bénéficiaire de mes euros que je te prête, répond bien à ces critères-là. Encore une fois, aujourd'hui, c'est peut-être pas la majorité des financements. Demain, en 2030, voilà. Donc, celui qui commence dès aujourd'hui à intégrer ces critères-là, à se questionner là-dessus, prend, c'est clair, une longueur d'avance. Alors ça, c'est bien beau, là, c'est les grandes entreprises où on peut avoir des armées de consultants ou de personnes qui travaillent sur le... Non, ça, c'est pas moi. Alors, et les PME dans tout ça, en fait, les PME, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est un peu la synthèse. C'est-à-dire, en premier lieu, vous allez avoir accès à certains investissements et à certains financements que n'ont pas les autres. Encore une fois. Ensuite, ça devient une demande de vos clients. Puisque, je le disais juste avant, hein, mais sur l'accès au financement, ce n'est pas réservé aux très grandes entreprises. Hein. Nous, BPI France, on finance des petites, des moyennes, des ETI. Toutes ces entreprises peuvent recevoir ces fonds européens pourvu qu'elles respectent les critères. Ensuite, c'est une demande de vos clients. Donc, vous n'êtes peut-être pas soumis à la DPEF. Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'y êtes pas soumis a priori. Mais demain, la DPEF, ce joli petit sigle, va devenir CSRD. Alors lui, il va faire mal. Et la CSRD vous demande de remonter dans votre chaîne de valeur. Donc la PME qui n'était pas forcément soumise à CSRD, elle va se retrouver avec la patate chaude à un moment donné à devoir communiquer de l'information à son client, en fait. Si on prend l'exemple du bâtiment, vous allez avoir un grand donneur d'ordre, un Eiffage, un Bouygues, etc. Mais quand il va aller chercher son producteur de béton ou je ne sais pas, qui passerait sous les seuils, il va lui dire, mais ton béton, c'est quoi son impact carbone? C'est quoi son empreinte, son bilan carbone? Parce que lui, il en a besoin pour calculer ses produits derrière. Donc là encore, la chaîne, ça va remonter dans la chaîne de valeur. Et puis encore, il ne faut pas oublier, hein, ce que Eric a, je pense, bien dit, c'est que la taxonomie, ça peut être aussi utilisé comme une cible de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas 100% aligné, mes robinets sont à 5,2 litres et je dois atteindre 3 litres à la minute. Mais si je sais comment me rendre à l'objectif. Voilà. Donc, quoi faire en partant de ça? Préparez vos informations DNSH. Je vais vous montrer juste après un petit peu comment est-ce qu'on peut regarder. Et les PAI. Alors, les PAI, c'est encore un autre bel acronyme bien sympathique. Mais les PAI, c'est ce qui m'empêche de dormir au mois de juin. C'est-à-dire que moi, je dois les produire pour l'AMF. Et pour l'Europe, c'est-à-dire ce sont les principales incidences négatives. C'est que vous, en tant qu'entreprise, PME, dans lesquelles on va investir, moi, en tant qu'investisseur, je dois publier les bilans carbone des entreprises dans lesquelles j'investis. Je dois publier leur impact sur la déforestation. Est-ce qu'ils ont une politique en matière de biodiversité, etc. Donc, il y a 16 critères obligatoires, 2 qui sont optionnels. C'est pas forcément très compliqué, même pour une PME, hein, c'est pas la folie, mais l'avoir déjà prêt et sur étagère, vous facilitez tellement la vie du gars qui vous signe l'échec que ça peut être un peu de temps, bien, à mon avis, bien investi. Et puis aussi, bah, vous avez des outils disponibles au niveau de la taxonomie européenne. Alors, on vous les met là. Je ne sais pas si les présentations sont disponibles après, mais en gros, vous tapotez sur l'Internet taxonomie navigateur et vous allez avoir deux outils. Le taxonomie compass qui va en fait vous dire, vous, en fonction de votre entreprise, qu'est-ce que vous faites, vos produits, où est-ce que vous vous situez, est-ce que vous êtes éligible, durable, transitoire, habilitant. Et après, vous allez avoir le taxonomie calculateur. Et donc là, lui va vous permettre de calculer un certain nombre de choses, entre autres, votre alignement en chiffre d'affaires, en CAPEX et en OPEX. Un petit peu ce dont parlait Eric juste avant. Donc il y a des ressources qui sont un petit peu abscons au début, mais l'Europe est en train un petit peu de rendre ça un peu plus clair. Voilà. Donc deux ressources qui sont assez intéressantes. Voilà pour la portion un petit peu financement. On voulait garder du temps à la fin pour justement s'il y a des questions sur ces sujets, parce que la taxonomie, c'est vrai que souvent est abordé sur les cinq critères, enfin les trois critères de sélection, etc. Mais l'aspect un petit peu plus pragmatique, un petit peu moins. Donc, on voulait ouvrir un petit peu la période de questions. Alors, oui. Non. Les PAI, c'est exactement ça. J'avais préparé la diapositive. Je suis un mentaliste. Les PAI, voilà. Donc, en gros, c'est... alors là, je vous ai mis en deux pages. Je vais revenir en arrière. Mais les 14 qui sont obligatoires. Et puis, vous en avez deux autres optionnels en fonction de l'activité. Mais en gros, ce sont des indicateurs environnementaux, voilà, qui sont assez... Voilà. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone. Donc, ça, c'est par... du produit, l'intensité, c'est par million de chiffre d'affaires, etc. L'exposition aux entreprises, enfin des entreprises dans le secteur des combustibles. Donc, en gros, est-ce que vous produisez du pétrole ou pas? C'est oui/non. Hein. C'est pas forcément hyper compliqué. Bon, ça demande quand même de faire un bilan carbone pour les premières questions, mais après, par exemple, si je regarde l'indicateur 8, là, émissions dans l'eau, bon, c'est les tonnes d'émissions dans l'eau générées par les sociétés. Et dire, je calcule pas ça, moi. Mais en fait, si vous le calculez pas, c'est que vous y êtes pas soumis. Souvent, ces indicateurs-là sont pas sortis du chapeau d'un technocrate à Bruxelles, mais s'appuient sur déjà des choses qui sont faites. Donc, si vous êtes dans un secteur qui consomme beaucoup d'eau, vous êtes probablement déjà soumis à une publication de l'eau. Tout ce qu'on vous demande, c'est de le mettre dans un format clair et facile. Voilà. En fait, c'est ce que moi, on me demande en tant que financier, de recenser un petit peu tous mes financements, tous mes investissements, leurs émissions dans l'eau. Donc, j'ai besoin de capter la donnée. Donc, voilà, pareil sur les ratios de déchets dangereux. Si vous êtes un restaurant, enfin, à moins que la nourriture soit vraiment exécrable, vous ne faites pas de déchets dangereux, donc vous n'avez pas à reporter sur ce sujet-là. Voilà, donc, les PAI, je pense que ça peut valoir la peine de les regarder. Il y en a 14. La violation du principe du pacte mondial. En France, pour violer le pacte mondial, faut y aller, il faut être un sacré filou. Donc je pense que vous rentrerez pas. Bref, c'est assez facile d'y répondre, je pense. CSRD est venu après, enfin vient maintenant, mais bâti aussi là-dessus. Donc dans CSRD, on peut vous demander ça si c'est matériel. Alors, hein, je veux pas, y a une autre conférence sur la CSRD. J'en mange à tous les jours de la CSRD, donc je peux en parler. Mais effectivement, ces indicateurs-là se retrouvent dans CSRD, se retrouvent dans SFDR, qui est un autre voilà. Alors CS3D, c'est encore autre chose, c'est le devoir de vigilance. Elle n'a pas encore stabilisé celle-là, mais elle s'en vient. Elle existe, mais à un niveau non contraignant et bon, pas là, ça va me sortir l'écro là quand même. Sur la CS3D, oui, mais tant que les trois, le Parlement, la Commission et le troisième, dont j'oublie toujours, vont pas s'entendre, ça penche d'un extrême à l'autre. Donc pour l'instant, je pas trop me. Voilà. Alors, j'ai la dame en rouge, le monsieur en vert après. Ah, mais on a des micros. Alors, madame, oui.
n'y avait pas de question.
Est-ce qu'il y a une définition de ce qu'est une activité ? Quel est le périmètre ? Parce que ça peut être un produit, un service. Est-ce qu'il y a une définition claire ? Parce que, en fait, moi, je pourrais y répondre de mille manières. Je travaille pour un cabinet de conseil. Est-ce que c'est à l'échelle d'une mission ? Est-ce que c'est pour un client ? Enfin, comment est-ce qu'on définit une activité ? Est-ce qu'on a des indications ?
En fait, vous allez la voir là, en fait, dans le taxonomie navigateur et le taxonomie compass, puisque, effectivement, en fonction de votre activité économique, vous pouvez être effectivement un produit, un service, une entreprise. Oui, généralement, ça redescend au niveau de l'activité ou du produit.
Après, je suis d'accord que ce n'est pas forcément évident, parce qu'ils ont défini des activités, mais la réalité, c'est que souvent, on est un peu à cheval entre deux. Ce n'est pas super évident. Je pense que là, c'est une décision, à mon avis, de l'entreprise qui va dire en toute bonne foi, je pense que mes activités, je les tronçonne, je les mets au chausse-pied dans ce qui a été décrit de cette manière-là. Parce que c'est de même que les indicateurs, ceux qui sont matériels ou pas, ça sera la décision de l'entreprise que d'expliquer que pour elle, c'est important et que ça, par contre, c'est pas important pour elle. C'est un peu la même logique, je pense.
Après, au niveau entreprise, en fait, c'est là où va se calculer le ratio d'alignement en chiffre d'affaires, en CAPEX et en OPEX. Donc, si vous faites des produits verts, donc au niveau produit, et que vous les vendez, vous dégagez un chiffre d'affaires, vous allez pouvoir calculer le ratio d'alignement de votre chiffre d'affaires. Si vous investissez dans du CAPEX pour des activités ou des choses qui sont éligibles à la taxonomie, vous allez le mettre dans les CAPEX. Et si après vous faites des dépenses, ça va être dans l'OPEX. Donc au niveau de votre produit, ça va être facile de l'aligner sur la taxonomie. Et après dire mon entreprise, et vous ne pourrez pas dire, à moins d'être 100% aligné, tout ça, vous ne pourrez pas dire je suis 100% taxonomie align. Mais si vous dites j'ai 80% de mon chiffre d'affaires qui est aligné en taxonomie, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir venir vous redire grand chose. Je ne sais pas si... Alors, j'avais le monsieur en vert. Et après, j'ai...
Merci. En termes d'obligations, selon la nature de l'entreprise, taille de l'entreprise, chiffre d'affaires, valeur des assets, est-ce qu'il y a des deadlines qui ont été fixées pour être obligé de rentrer dans une démarche taxonomique ou pas ?
Oui. Alors, à l'heure actuelle, les exigences de divulgation de ces ratios d'alignement taxonomique sont... Aujourd'hui, dans ce que nous, en France, on a la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. Demain, ce sera dans la CSRD. Donc, les seuils vont baisser. En France, oui, parce qu'on avait un peu dit changer. Mais en gros, demain, ce sera à partir de 250 à terme, quand ce sera, parce qu'il y a un déploiement progressif de la CSRD. Mais à terme, ce sera 250 salariés. Le seuil sera à 250 salariés et ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou 20 millions d'euros de bilan, et c'est deux des trois. C'est-à-dire, même si on est à 100 et qu'on dépasse les autres, on est soumis. Hein. C'est deux des trois.
La question de monsieur, c'était sur aussi l'éligibilité à la taxonomie. Les seuils sont les mêmes ?
Ah oui. En fait, la taxonomie, elle, c'est juste un dictionnaire. Et après, c'est ceux qui vont vous déclencher une obligation de le publier, c'est d'autres textes. Comme par exemple, comme la CSRD, la DPEF aujourd'hui, c'est là-dedans que vous devez déclarer vos alignements. Demain sera la CSRD. Donc les seuils ne viennent pas dans le règlement taxonomique, mais viennent dans les autres textes. Tout à fait. Ah oui, tout embarque. Oui, non, tout à fait. Tout à fait. La dame, alors oui.
Il y avait des sanctions pour les PME dans le cas où on ne suivrait pas la taxonomie et la CSRD. Je n'ai pas trouvé de sanctions sur la CSRD.
Pour les PME, il n'y aura pas de sanctions. Mais enfin, ça...
Quand je dis PME, c'est soumise à la CSRD, hein, tout de même.
Ou celle soumise à la CSRD. Alors, au niveau du régulateur, il y en aura, quelques-unes, on ne les connaît pas encore, puisque c'est le temps que ce soit transcrit en droit français. Donc c'est en cours.
Ah, donc c'est au niveau français qu'on va savoir si potentiellement il y a des sanctions financières.
Oui.
Mais au plan européen, pour le moment,
non.
Après,
en dehors de l'image, de tout ça.
Oui, en dehors de l'image, oui, tout ça.
Mais
oui,
j'ai employé le mot sanction tout à l'heure, c'était pour dire qu'il y a des bénéfices à y être. Et il y aura des sanctions à ne pas y être, mais c'est dans le sens absence de bénéfice, en fait, que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait,
le devoir de vigilance, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires. Voilà,
oui, non, c'est pas à ce niveau-là. Effectivement, c'est pas à ce niveau-là, ou déforestation, ou travail forcé, effectivement. Non, ce sera pas à ce niveau-là. En tout cas, ils sont en train d'écrire. L'encre n'est pas sèche. Hein, mais donc, alors, j'avais le monsieur qui lève la main là-bas, et après, je ne sais pas entre.
Merci beaucoup pour vos explications. Vous avez détaillé un peu la taxonomie, vous êtes passé, vous l'avez fait en diagonale, mais pour en revenir sur le titre de la conférence, est-ce que selon vous, avec votre œil d'expert dans la finance en particulier, c'est un outil de transition, c'est l'outil de transition qu'on attendait, ou c'est encore une incitation réglementaire en plus, qui n'est pas forcément la plus contraignante, puisqu'elle n'attend pas de sanctions il n'y a pas de sanctions qui soient donc de sanctions négatives pour repréciser qui vont tomber dans les 10 prochaines années et c'est quelque chose qui si on veut vraiment bouger les lignes, est-ce que selon vous ça va venir des investisseurs, des épargnants qui donnent leur juste c'est quoi votre réponse à la question de la conférence en fait. Ouais.
Alors déjà pour ce qui est du titre en fait c'était une demi-blague mais pour dire que on considère qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment utilisable concrètement par des gens qui veulent conseiller des entreprises ou les entreprises elles-mêmes pour se dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire que d'être durable, qu'est-ce que ça veut dire que d'être en transition, comment ça se montre, comment ça se démontre et comment... Voilà. Et parce que ça, si on n'a pas ça, c'est vrai que derrière, tous les bénéfices en termes d'investisseurs, parce qu'il y a vraiment y avoir une course aux actifs verts de la part des investisseurs. Enfin, je ne sais pas si c'était bien clair dans ce qu'on a dit, mais... Oui. Ça va être ça la sanction au final, c'est qu'en fait tout le monde, tous les investisseurs de la place vont se battre pour les boîtes qui sauront démontrer qu'elles sont vertes. Donc là, il y aura potentiellement un gros bénéfice à être vert. Voilà. Enfin, ça c'est la question. Après, donc la vraie pression, enfin tout l'esprit là de ce montage, c'est que la vraie pression, enfin la plus grosse pression en tout cas, elle est plus du côté des financeurs et des investisseurs qui eux vont devoir se mettre faire la course pour trouver des boîtes. Donc derrière, évidemment, la pression va se transmettre aux boîtes. Donc c'est un peu notre propos, c'est de dire peu importe les seuils d'éligibilité, etc., toutes les boîtes vont être concernées, parce qu'une PME, elle cherche aussi des investisseurs, de même qu'une grande boîte. Donc si elle n'arrive pas à démontrer qu'elle est verte, il ne lui arrivera pas ce qui lui arriverait.
Et avec votre œil, vous qui avez vu grandir ces réglementations et leur mise en place peu à peu dans les entreprises, est-ce que c'est une réglementation qui est assez contraignante ou assez rapidement mis en place dans les organisations ou en fait
taxonomie alors elle est non contraignante hein, déjà c'est encore une fois tout comme CSRD et elle est enfin il y a une contrainte de publication mais il n'y a pas une contrainte de résultat enfin il y a pas forcément une contrainte de résultat ou de sanctions très fortes mais faut voir ces réglementations sont à mon sens, sont très très bien pensées. La taxonomie, c'est le dictionnaire, quoi. C'est la boussole. Ça vous dit, c'est ça qui est vert, et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire quand telle entreprise, tel produit, tel service est aligné avec la taxo, à la taxonomie européenne, c'est vert. Et fin de la discussion. Je peux alimenter avec mes financements, etc. Enfin, c'est extrêmement puissant. C'est un signal extrêmement puissant. La CSRD, alors c'est pas le propos du, mais c'est le blueprint là, c'est les plans d'usine pour faire une stratégie de développement durable qui est doublement matérielle, qui est efficace. Enfin, alors on voit le côté oh ça me tombe dessus les seuils tout ça. J'ai deux exercices 2024, exercice 2025, c'est contraignant etc. Mais on le prend comme un fardeau réglementaire, ça l'est aussi. Mais c'est surtout un truc où tout le monde est d'accord. Si vous faites ça, vous êtes quasiment assuré de prendre les bonnes décisions et les bons pas pour mettre votre entreprise en transition. C'est dans ce sens-là en fait qu'il faut, je pense, les prendre. Donc c'est vraiment des super opportunités pour justement agir en ce sens. Alors il y avait une main devant et puis le monsieur aussi.
Bonjour, vous parliez des seuils. Je ne sais pas si c'est à ça que ça se rapporte, mais par exemple, vous preniez l'exemple des robinets d'eau. Où on trouve les critères qui sont acceptables les seuils, les volumes, est-ce que c'est activité par activité, secteur par secteur?
Ouais, tout est détaillé, c'est sur le site de la taxonomie. Je pense que si vous allez sur Taxonomie Compass, normalement, ça, vous aurez des renvois secteur par secteur.
Et question vous verrez... subsidiaire, du coup, est-ce que ça va être stable ou est-ce que ces seuils vont changer d'année en année, ce
qui... Alors, ça dépend. ça dépend, puisque la taxonomie va évoluer dans le temps. Alors, il y a des choses dont on sait déjà que les seuils vont diminuer. Par exemple, on en avait parlé pour... Enfin, on n'a pas parlé, mais on a évoqué nucléaire et gaz. Les pourcentages d'émissions par mégawattheure produit vont diminuer avec le temps. C'est-à-dire qu'une technologie qui est transitoire en 2025 ne sera pas la même qu'en 2030 ou en 2035. Donc certains critères ne vont pas forcément bouger, d'autres vont être amenés à évoluer pour arriver à terme à une société décarbonée.
Et qui les aboutit, ces critères?
Alors, c'est décidé au niveau européen. Donc, c'est des critères techniques qui... Alors, j'ai un doute, c'est pas les frags, mais c'est des experts sectoriels qui développent ces sujets-là. Donc, généralement... Enfin, je m'excuse, je vais pas dire une bêtise, mais généralement, l'Europe fonctionne avec des ONG, des experts du secteur, des entreprises du secteur... qui arrive à un consensus là-dessus. Puis après, ça passe le processus réglementaire. Il y avait le monsieur devant. On est un peu dépassé. Je ne sais pas s'il y a une conférence après. C'est bon, il n'y en a pas.
Mais excusez-moi, est-ce que les SAS sont concernés?
Alors, aujourd'hui, la DPEF, c'est que les SAS. Je me trompe. Non, c'est l'inverse. Voilà. Sur CSRD, tout le monde sera concerné, normalement. Il n'y aura plus de seuil de quelle est la forme juridique, tout ça.
Ouais, parce que tu n'es pas soumis à DPEF, c'est ça, les SAS. Donc, elles ne sont pas soumises à CSRD. Voilà.
Parce que ça a été mis dans le code du travail, là, mais... Enfin,
dans le on gagne un an.
Code d'entreprise, code des entreprises.
Ouais, alors...
Je pense qu'après ils le mettent en c'est partagé par Pro Durable donc je pense que oui. Alors monsieur, vous aviez une question aussi? Alors la taxonomie, elle est obligatoire. Le reporting, enfin vous devrez reporter sur votre alignement taxonomique. Si vous faites si vous êtes au-dessus des seuils qui déclenchent soit une DPEF aujourd'hui ou demain la CSRD. Donc quand vous ferez demain votre rapport CSRD, enfin après-demain, là, parce qu'il y a encore un peu de temps, si vous faites un rapport CSRD, vous devrez avoir une section sur la taxonomie et déclarer ces informations-là. Eh ben dans ce cas-là, vous mettrez non éligible. Si vous prenez un rapport de... Qu'est-ce que j'avais vu dernier? J'en ai plus, mais en gros, vous prenez une grosse multinationale, ils sont tellement diversifiés qu'ils sont rarement alignés sur toutes leurs activités, donc vous verrez comment ils reportent ces informations-là. Merci. Je vous en prie, monsieur.
Oui, non, bah, allez-y.
J'en ai deux. Je répondrai aux deux.
Bon, bah, je commence à... Désolé, hein. Juste dans le cas d'actifs immobiliers, est-ce que vous pensez que l'alignement avec la taxonomie prendra le pas sur des certifications? En tant qu'investisseur, je pense au BRIM, par exemple, qui était très présent. Est-ce que maintenant, il sera plus important d'être aligné, d'avoir des actifs IMO alignés avec la taxonomie par rapport à des actifs IMO avec un BRIM Excellence, par exemple?
Ça va être complémentaire et ça va converger, en fait.
D'accord.
Je pensais surtout ça. Nous, je sais qu'on avait regardé pour du côté Green Bond, là, enfin de tout ce qui est obligations vertes, puisque nous, on émet des obligations vertes. Et en gros, on savait que RT 2012 n'était pas du tout aligné, mais RT 2020, plus 10%, on est aligné taxo.
Ouais,
donc, et en fait, et HQE plus bidule permet aussi d'être aligné taxo. Donc.
Mais ceci dit, donc la réponse là, c'est en fait, c'est que
c'est pas suffisant.
Mais il faut prouver que ça s'aligne avec la taxonomie. Donc en fait, le vrai phare là-dedans, c'est la taxonomie, et il faudra que les labels, enfin,
Nous, en tant qu'investisseur, le seul truc qui compte, si on est bête et méchant, c'est est-ce que c'est vert, pas vert au sens de la taxonomie. Donc ouais. Derrière, si un label par défaut le prouve, ben, ça va être on parfait. Le prendra. Mais donc c'est plus dans ce sens-là, en fait.
Exactement. Merci.
Bonjour, moi j'avais plus une question sur l'activité de BPI France à la fois en tant que financeur mais aussi en tant qu'accompagnant parce que vous financez beaucoup de PME, TPE notamment dans le secteur de l'hôtellerie parisien. Et
alors,
est-ce que...
je suis, alors là-dessus, ouais. Si c'est vraiment sur BPI France, ce que je vous propose c'est qu'on a un stand, on peut s'en parler juste après, autant de temps que vous voulez, sans problème, mais j'avais une question, si comme ça on garde les questions taxo, mais n'hésitez pas, vraiment on est là toute la journée et demain, oui.
Oui, bonjour. J'ai une petite question sur finalement qui valide l'alignement de la taxonomie. Donc, je comprends que demain, lorsque la CSRD va s'imposer, si on dépasse les seuils, dans le document de la CSRD, il y aura un volet sur l'alignement, taxonomy compliance. À date, ce que je vois, c'est qu'on fait beaucoup appel à des SPO qui peuvent un peu venir flaguer l'alignement sur la taxonomie. Oui. Est-ce que demain, avec la CSRD, les SPO, on peut... s'en passer ou
non,
ça
non,
sera des
non,
compléments
non, la CSRD, elle sera soumise à une assurance oui. modérée.
D'accord.
Donc,
mais finalement, par
audité,
quoi, par un OTI
Elle sera auditée. La DPEF est déjà dans le rapport annuel.
Oui.
Hein, donc voilà. Les indicateurs extra-financiers sont généralement révisés aussi, font partie. Donc les alignements taxonomiques le sont. Et demain, ce sera la même chose, mais ce sera le CAC en plus qui signe.
Donc le CAC, l'OTI, mais du coup, voilà. Plus besoin de venir ajouter une SPO qui viendrait rajouter son avis. Le CAC se suffit à lui-même, là, pour le coup.
Le CAC, généralement, c'était les mêmes boîtes, hein, en général. Ça dépend des
boîtes. Non, parce qu'il y avait des SPO type Eti Finance qui ne sont pas qualifiés OTI, et donc du coup,
non. Mais moi, je pense qu'on va aller plutôt vers quelque chose de plus normatif. Hein,
okay.
C'est-à-dire, ça sera des comptes, ça sera audité, tamponné, au même titre que les comptes. Quoi.
Okay.
Donc, parce que ça va prendre de l'importance, parce que là, c'est plus pour rigoler, c'est juste ça l'objet de cette conférence, c'est que c'est plus pour rire. Donc en fait, avant c'était un peu quand même. Mais là maintenant, donc ça va être audité, parce que derrière, il y a des implications financières majeures. Enfin, c'est ce qu'on a tenté de dire là. Donc oui, c'est pour les grandes boîtes, c'est audité, c'est sûr. Mais nous, la question, on se l'est posée aussi pour les PME, parce que c'est ce qui va se passer.
Ouais.
Parce que si elles sont... Effectivement, il faudrait trouver un moyen. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui ont pensé à packager des offres, justement, de. Faire un CSRD simplifié pour les PME avec, dans le pack, un avis d'audit un peu simplifié aussi. Mais parce que, évidemment, si c'est tous pour des PME, par exemple, si derrière, ce n'est pas d'une certaine manière tamponné, audité, quelle valeur ça aura pour nous financiers. Donc, toute cette mécanique, il faut qu'elle se mette en place aussi.
Et peut-être une dernière question, du coup, sur. Vous parliez de groupes qui sont, multi-activités. Donc, il y aura autant de détails qu'il y aura de code NAF attribués au groupe.
Ah ouais, c'est compliqué. Hein.
Bah c'est même pire qu'un code NAF, en fait. Enfin, c'est une activité.
C'est les codes NAS dans la taxo, mais nous, on les retraduit après en code NAF, mais c'est une usine à gaz. Donc, quand on embarque un client sur de la taxonomie compliance, je vous garantis que je préfère appeler une SPO parce que c'est trop compliqué.
Ouais.
Ça nous va bien. Et si demain, il y a la CSRD qui vient se substituer, ça nous va bien aussi avec un ETI. Mais du coup, c'est de se dire, est-ce que, je crois qu'il y avait quelqu'un qui posait la question, autant d'activités, autant finalement de preuves d'alignement de la taxonomie sur chaque code d'activité, ou c'est au choix, on va prendre 80% du chiffre d'affaires, ça semble significatif, et on s'arrête là.
Disons, ça dépend du niveau d'ambition, c'est-à-dire qu'une entreprise, si elle veut passer au crible le plus possible de ses activités pour avoir se maximiser la chance d'avoir du CA vert, elle aura intérêt à faire l'effort. Après, si c'est vrai que si un Pareto en disant bon, on fait l'effort sur 80% de nos activités, celles-là, elles sont à peu près bien cadrées, elles ont l'air de bien rentrer dans les cases, mais du coup, ils jouent plus que sur 80% de leur chiffre d'affaires, donc au maximum, ils pourront être qu'à 80% vert. Ce sera la réponse spontanée que je donnerai. Là, mais...
Merci.
Il y avait une autre question.
À leur faire peur.
Pourtant, je leur parle d'opportunité, mais en fait, pour l'instant, ils se foutent du CA
Pour compléter. En fait, moi je pense qu'on est au milieu du guet là-dessus. Mais bon, moi on voit monter, comme on a une double vision, c'est vrai que c'est intéressant. Mais moi je fais des missions pour le coup pour nos investisseurs BPI France dans des entreprises sur la RSE justement. Et là j'ai de plus en plus des demandes qui me disent et au passage, est-ce que vous pouvez regarder s'il pourrait être éligible à un fonds article 8 ou 9 ? Et ça, c'est des signaux, pour moi, c'est des signaux faibles. Ça veut dire qu'en fait, qui sont intéressants. Ça veut dire que les investisseurs commencent là déjà à se mettre en position de dire « Bon, mais cette boîte-là, si j'investis dedans, est-ce que quand même elle a le potentiel pour être verte ?» Pour que moi, après, je puisse dire la mettre dans un fonds qui est vert. Quoi. Et le corollaire de bah, « Si manifestement, elle ne sera jamais verte, bah, pour moi, investisseur, elle perd de l'intérêt dès maintenant, en fait. » Donc, il y a une moins-value. Alors, on a du mal à dire de combien, etc. Mais c'est clair qu'il y a déjà une moins-value, au moins dans l'intérêt pour un investisseur. Donc là, la logique. Ah bah après, si vous avez besoin de personne, que vous viviez votre vie tranquillement sans personne, bah après, vous n'avez pas besoin de tout ça, c'est vrai. Mais...
Ah bah oui.
Ouais. Bah là, il n'y a pas d'argument très, très, très chaud.
Bah, les opportunités d'aujourd'hui, c'est les risques de demain. Hein. Donc, et à bouger. C'est beau. J'ai dû le lire quelque part. Elle ne doit pas être de moi, je pense. Non, mais c'est ça, en fait. C'est que demain, ça sera en mode réactif, alors que là, effectivement, il y a déjà des poches. Hein. Je montrais un petit peu là ces choses-là, mais les FRR, les FEDER, les InvestEU, enfin, c'est pas qu'il manque de débouchés, mais c'est un peu ça en fait, c'est qu'on peine aussi à trouver des boîtes qui vont rentrer dedans, et il y a des milliards là-dedans.
Donc, oui, il y a plus un manque de projets et d'entreprises vertes que d'argent pour y aller en fait. Hein. C'est, faut quand même
si,
se dire
si
ça.
Votre boîte
donc là, le risque, c'est de ne pas bénéficier de cette manne. Hein. Enfin, ça, c'est déjà un risque en fait.
Si vous avez zéro problème pour vous financer et que l'argent gratuit tombe du ciel, très bien. Mais, non, mais je rigole, mais je dis sur le ton de la blague, mais c'est un petit peu ça quoi. Demain, c'est ça. Et encore une fois, la taxonomie. Comme c'est le tampon, le label en quelque sorte, hein, c'est une sorte de label en soi, ça peut vous qualifier auprès de nouveaux marchés. Quoi. Celui qui fait du lead, enfin en France, je ne sais plus, ça marchait bien le lead. Mais, ouais, mais tout va converger, je pense. Mais, voilà. Très. Bon, les opportunités d'aujourd'hui sont les risques de demain.
Voilà, bah c'est tout ce qu'on aura retenu de cette conférence. Merci bien.
Bon, bah, merci à vous alors.